Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois Florence Notaire, présidente de l'Orchestre de la Suisse romande. Bonjour Florence.
Bonjour Viviane, merci de
m'accueillir. Ravie de te recevoir. On va découvrir en détail, grâce à toi, ce qu'est l'Orchestre de la Suisse romande pour les éventuels auditeurs qui ne le sauraient pas. Mais je rappelle surtout que tu as été élue à l'unanimité en avril 2013. C'est un poste très important. Tu as été nommée par le Conseil d'État, je crois.
J'étais nommée par le Conseil de Fondation.
Le Conseil de Fondation.
De l'Orchestre. C'était validé par le Conseil d'État.
Voilà. Alors, je voudrais, maintenant que les auditeurs savent qui tu es, je voudrais revenir à ton enfance et te poser la question rituelle dans cette émission. Quelle petite fille étais-tu ?
Diabolique.
Oh là
j'étais,
là là
j'étais très, très indisciplinée, plutôt très intéressée par les matières moins intéressantes pour l'école.
La gymnastique ?
Pas du tout, j'avais toujours horreur de la gymnastique, mais j'aimais les arts. J'étais très bonne en mathématiques, mais j'avais horreur des mathématiques. J'ai fait une scolarité, tout ce qui est de plus normal et agréable. Et puis après, je me suis dirigée vers Sciences Po et l'école du Louvre.
Ça, c'est très sérieux, mais avant ça, donc, dis-nous un peu, qui étaient tes parents ? Où habitais-tu ?
Là, j'habitais à Paris. Mon père était industrielle et ma mère, suissesse, était ingénieure et était une des premières femmes ingénieures en aviation.
C'est bien.
Mais elle n'a jamais exercé son métier après son mariage, donc elle était toujours un tout petit peu triste de ne pas exercer son métier. C'était une femme brillante et mon père était ingénieur à la tête de société internationale.
Alors, tu as donc fait des études à Paris.
J'ai fait des études à Paris chez les Dominicaines. J'ai fait toute ma scolarité à Saint-Dominique, qui est une école absolument magnifique parce qu'elle enseigne la littérature, les arts. C'est une éducation humaniste. Ce qui est très important.
Tu as les yeux tout brillants en en parlant.
Oui.
Je crois que tu as gardé un bon souvenir de tes religieuses dominicaines.
Je ne sais pas si elles ont gardé un bon souvenir de moi, parce que j'étais un petit peu le bout en train de la classe et celle qui faisait toutes les bêtises. Mais moi, j'ai gardé un très bon souvenir de toute ma scolarité chez les dominicaines.
Alors, à quel moment es-tu venue en Suisse ?
Alors, je suis venue en 81. J'ai travaillé à Londres pour Christie's. Et Christie's m'a envoyée à Genève. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire là ? J'étais double nationale. J'étais la seule de toute l'équipe à être double nationale. Et quand je suis arrivée à Genève, l'accueil était tellement extraordinaire que je suis restée. Et puis, quelques années après, je me suis mariée à un Suisse, un Suisse allemand.
Bien sûr.
Voilà. Alors, j'avais dit que jamais je resterai en Suisse, mais j'ai tellement aimé ce pays, qui est aussi mon pays, que je suis restée.
Mais je comprends très bien, puisque tu sais bien que je suis double nationale aussi et que j'aime ce pays dans lequel j'ai été heureuse de m'installer. Alors, c'est vrai que Genève a beaucoup d'attraits, beaucoup d'atouts, et puis surtout, on est effectivement très bien accueillis.
C'est
Il y a
magnifique.
Une vraie chaleur.
Il y a une vraie chaleur et c'est une petite ville qui a tous les avantages d'une grande ville. Parce que c'est une ville à taille humaine, je dirais, avec des personnes qui viennent du monde entier, qui sont absolument extraordinaires, possibilité de les rencontrer et puis d'ouvrir de multiples horizons. Et c'est ce que j'aime dans Genève.
Alors, dis-moi, à quel moment tu as découvert que tu aimais tellement la musique ? Est-ce que c'est une éducation dans ton enfance ou est-ce que c'est une découverte que tu as fait plus tard ?
Alors, c'est tout à fait une éducation de mon enfance. Je joue au piano depuis l'âge de 4 ans. Mon père était un très grand mélomane et je me souviens des terreurs absolues quand j'avais 4-5 ans et qu'on écoutait l'enfant et les sortilèges de Ravel et j'avais très très peur de l'horloge. Donc j'ai baigné dans un milieu musical, mon papa était ami de la Callas, mes parents étaient amis de la Callas, on avait beaucoup de chefs d'orchestre qui passaient à la maison. Donc j'allais souvent à l'opéra, je me souviens d'un requiem allemand dirigé par Barenboim absolument extraordinaire dans les années 70, donc j'ai des très bons souvenirs d'enfance, de musique et j'ai toujours baigné dans ce milieu-là.
Au fond, il n'y a pas de hasard en musique. Très souvent, les gens qui aiment la musique adulte ont baigné dedans enfant. C'est rare les découvertes postérieures.
Alors c'est rare et mon père, quand j'étais nommée à la tête de l'Orchestre de la Suisse romande, m'a dit « c'est pas possible, je croyais que t'étais celle de mes enfants qui aimait le moins la musique ». Donc il s'est trompé, mais il n'y a pas de hasard, j'ai grandi avec la musique.
Alors dis-moi, tu as joué du piano, donc est-ce que tu en joues toujours ?
Malheureusement, je n'ai plus le temps et comme je suis très perfectionniste, je n'ose plus en jouer, mais j'ai un piano à la maison. Mes enfants jouent au piano, les deux.
Les deux.
Et continuent à jouer dans leur temps libre. C'est une grande victoire, dire que maintenant ce sont des jeunes hommes et qu'ils jouent au piano et qu'ils apprécient.
Ça, c'est bien. C'est très rare que les garçons continuent.
Voilà. Et ils improvisent, ils jouent tous les jours, en tout cas 1 heure à 2 heures au piano, et c'est très important.
Ça, c'est magnifique. Alors, je vais rappeler que, comme nous l'avons dit au début de l'émission, donc, tu es à la tête de l'Orchestre de la Suisse romande. Tu as donc été nommée présidente en avril 2013. Tu as succédé à Mettine Arditi, un autre grand amoureux de la musique.
Alors, j'ai succédé à Mettine qui est un grand homme, quelqu'un qui a été à la tête de l'orchestre pendant près de 19 ans, qui a fait des grandes choses pour l'orchestre. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe extraordinaire. J'ai un directeur général qui a été nommé quelques mois avant moi, qui est un grand professionnel. Et j'ai tout un bureau qui m'aide et qui me soutient et qui sont des personnes qui sont des grands amateurs de musique et des grands professionnels, chacun dans leur domaine. Chacun apporte une valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe.
Alors dis-moi, avant d'arriver à être la présidente de l'Orchestre de la Suisse romande, tu étais donc pendant très longtemps, pendant 4 ans je crois, à la tête des Amis, que tu écris avec un Z.
Non, alors les Amis avec un Z, ce sont les moins de 20 ans.
Ah d'accord,
ce sont les jeunes. Il y a les Amis sans Z et les Amis avec Z. Alors il y a les Amis tout court, qui sont les mécènes de l'orchestre et qui sont aussi le public genevois qu'on accueille à des répétitions générales quand ils ne peuvent pas venir le soir. Donc ça, c'est pour les personnes âgées. Les personnes âgées adorent venir aux répétitions générales 9 fois par an, entre 10h et 13h. Beaucoup de mécènes qui s'investissent dans la musique et qui nous apportent entre 500 et des milliers de francs. Et puis, il y a les Amis avec Z, à peu près 2000. Sont des jeunes qu'on essaie de familiariser avec la musique, qui font de la musique, qui jouent d'un instrument ou qui n'en jouent pas, et que nos musiciens de l'orchestre peuvent parrainer. Pendant un an, certains de ces jeunes sont parrainés, ont comme tuteur un musicien de l'orchestre. Et pour eux, c'est une aventure extraordinaire.
Florence, mais comment procédez-vous, votre petit groupe, pour intéresser à la musique des enfants qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des parents mélomanes ?
Alors d'abord, nous nous mettons en rapport avec tous les professeurs de musique dans les écoles genevoises. Il y a à peu près 20 000 enfants qui passent par an à l'Orchestre de la Suisse romande. C'est
ça,
énorme.
C'est énorme, ça,
c'est
oui.
C'est énorme.
20 000.
20 000 enfants. On a un programme avec le DIP où il y a énormément de jeunes, d'enfants qui passent. On enregistre aussi des CD, les Amis avec Z. On enregistre des CD qui suivent le programme de l'école genevoise avec des morceaux enregistré par l'Orchestre de la Suisse romande. Et puis, nous avons un chef d'orchestre qui s'appelle Philippe Béhrand, qui est un grand communicateur, un grand communicant, et qui intéresse les enfants à la musique.
C'est formidable, ça.
Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est une joie de voir des salles. Une fois par an, nous avons un concert pour enfants des Amis. Et 3 fois par an, nous avons des concerts pour enfants de l'orchestre. Et c'est une joie de voir 1500 enfants rire et apprécier la musique et applaudir.
Dis-moi, tu as choisi des morceaux pour nous ? Par quoi commençons-nous ?
Alors, par quelque chose que personne ne connaît ou que peu de personnes connaissent. C'est une symphonie de Joachim Raff. Joachim Raff, c'est un compositeur suisse. Alors, beaucoup de personnes le connaissent parce qu'il y a son nom qui est inscrit sur le fronton du Victoria Hall. Mais c'était surtout un très grand compositeur de l'époque de Mendelssohn. C'était le secrétaire particulier de Franz Liszt. Franz Liszt qui a enseigné au Conservatoire de Genève. Un ami de Hans von Bülow. Un très grand compositeur du 19e siècle, très connu, et qui a été complètement oublié au 20e siècle. Et notre directeur artistique et musical, Némé Järvi, a enregistré en 2013 sa deuxième symphonie qui date de 1866.
On l'écoute.
Thank you.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Florence Notaire, présidente de l'orchestre de la Suisse romande. Florence, tu nous as dit tout à l'heure ta passion extraordinaire pour la musique, le fait que tu aies été élevée dans un milieu mélomane. Tu nous as dit que tu étais à la tête pendant 4 ans des amis de l'orchestre de la Suisse romande. Tu nous as expliqué aussi combien les professeurs de musique de Genève contribuaient à élever, au fond, au goût de la musique les enfants des écoles. Je ne suis pas sûre que ça se sache tellement, ça, et je suis heureuse que nos auditeurs l'entendent.
Alors, ça se sait peu. Alors, nous travaillons avec toutes les écoles du système public genevois et nous invitons toutes les écoles privées régulièrement à des concerts pour enfants. Et c'est très important. Et nous avons aussi développé au sein de l'Orchestre de la Suisse romande un programme pédagogique financé par la Loterie romande. Et ce programme a eu un tel succès que quand on a ouvert en juin, c'est un nouveau programme, en une semaine, c'était déjà plein. Donc on sait qu'il y a beaucoup de personnes frustrées, mais l'année prochaine, nous allons développer encore plus ce programme pour offrir au public, aux enfants genevois, même des concerts en famille. On propose des concerts le samedi, parents-enfants, pour offrir à plus de personnes la possibilité de développer leur oreille et de faire connaître à leurs enfants la musique. Et je dois aussi dire que, à travers le programme pédagogique, nous enseignons dans des classes, nous avons des classes de milieux défavorisés, pour faire connaître à ces personnes qui n'ont peut-être pas forcément accès à la musique classique.
À partir de quel âge ces enfants sont donc invités à des concerts ?
À partir de 4 ans.
4 ans ?
À partir de 4 ans, il y a une tranche 4-6 ans, après une tranche 7-9 ans.
Alors j'imagine qu'on ne leur fait pas écouter les mêmes choses qu'aux plus grands.
Pas du tout, on fait écouter Pierre et le Loup. Et puis après, Cadet-Roussel même, parce que Cadet-Roussel, c'est un grand morceau de musique classique. Puis après, on évolue. On va de plus en plus loin, mais on commence par des choses de base. Et puis, petit à petit, le boléro de Ravel. Le boléro de Ravel, c'est extraordinaire pour des enfants.
Ça plaît aux enfants ?
Ça plaît énormément aux enfants. Et je me souviens d'un concert qu'on avait fait il y a 3-4 ans avec l'orchestre du collège de Genève, parce qu'on collabore avec l'orchestre du collège. Et c'était fabuleux, parce qu'on leur a fait découvrir pour chaque instrument, chaque pupitre se levait. Et en entendant l'instrument, ils reconnaissaient le pupitre.
Est-ce que les musiciens sont sensibles à cet effort vis-à-vis des jeunes ? Est-ce qu'ils participent à ces efforts ?
Alors, ils participent énormément. Au concert de Noël, qui a lieu traditionnellement le 16 et le 17 décembre, ils arrivent même déguisés en Père Noël ou en lutin de Noël au concert.
Ça, c'est mignon.
On a eu, il y a quelques années, un lancer de cocottes en papier. On avait fait des pochettes à billets qui pouvaient se découper et puis on pouvait les transformer en cocottes en papier. Il y a eu un lancer d'avion en papier entre la salle et les musiciens pour désacraliser la musique classique. On a besoin de faire comprendre aux enfants que la musique classique, ce sont leurs racines, c'est leur compréhension de la civilisation, ce sont eux, c'est en eux. Et c'est pour ça qu'on aimerait aussi faciliter l'accès.
Florence, c'est pour ça que je suis très heureuse que tu sois aujourd'hui à notre micro. Je suis persuadée que peu de gens, hormis les mélomanes, sont au courant de ce que tu nous dis aujourd'hui. J'en suis absolument persuadée de ça parce que, clairement, c'est la première fois que je l'entends.
Alors, on essaye d'en parler le plus possible. C'est vrai que les mélomanes le savent. Souvent, j'ai des personnes que je rencontre et qui me disent « on n'a pas pu s'inscrire au programme pédagogique » ou « on aimerait bien y participer ». Je leur dis « écoutez, poussez la porte du Victoria Hall, venez dans nos bureaux, on a plein de programmes pour les enfants, profitez-en ». Et c'est vraiment, pour nous, c'est un service qu'on rend à la cité et ça fait partie de notre mission. C'est vraiment une mission que nos enfants connaissent la musique et s'ils connaissent leurs racines.
Et puis c'est l'avenir, si je puis dire, parce que les enfants représentent demain, après-demain et après-demain encore.
C'est notre public de demain.
Mais
pour
oui.
Pas que nos salles se vident, il faut absolument que nous partions à la conquête de notre futur public. Et c'est notre sécurité, c'est notre vie future.
Et alors je crois que c'est d'ailleurs un de tes soucis, c'est qu'au fond, les salles de concert sont plus remplies de gens soit très jeunes, soit âgés, et qu'entre 25 et 45 ans, ce soit plus difficile.
Alors oui, alors on vient de créer deux programmes. D'abord, on vient de lancer il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, une carte étudiant qui est distribuée dans toutes les universités. Pour 80 francs, tu achètes cette carte et tu as 10 places de concert. Pour n'importe quel concert, on peut venir à la dernière minute et on peut avoir des places de première catégorie, de deuxième ou de troisième catégorie. On peut aller à un concert 10 fois. Où on peut aller à 10 personnes en même temps au concert. Donc tout est modulable. Et c'est une façon de pousser les jeunes en disant « Écoutez, c'est beaucoup moins cher qu'une place de cinéma. Venez et vous aurez même peut-être la chance d'avoir de très bonnes places. » Ils viennent le soir du concert et trouvent ce qu'il y a. Et puis, on a créé un groupe qui s'appelle Intermezzo. c'est les 25, c'est un petit peu une de mes idées. J'ai un fils dans cette tranche d'âge et qui aime la musique, heureusement, et qui était bercé par la musique. Je crois qu'il n'a pas tellement eu le choix, mais il aime vraiment la musique. Et je me suis rendu compte que ses pères connaissaient mal la musique, qu'on n'avait pas le temps. Et entre 25 et 45 ans, on commence sa vie.
On a beaucoup de choses en même temps, bien sûr. On commence une famille, un métier, tout
on
à la fois.
On est très occupé. Oui. Et il faut que tout soit servi sur un plateau d'argent. Il faut qu'on vous organise des soirées avec des before, des after, comme ils le font. Donc, on organise pour eux des places de concert et après, ils ont des after avec les musiciens. Ou on organise pour eux des concerts et ils peuvent rencontrer des mécènes qui leur apportent quelque chose dans leur vie professionnelle. On a même organisé le dimanche matin des garderies pour enfants, pour nos concerts en famille, du concert du dimanche matin. Et après, un brunch enfants, parents, musiciens.
C'est magnifique ce que tu organises, Florence. J'aimerais aussi que maintenant nous écoutions un peu de musique, mais je voudrais que nous repartions sur ce sujet tout à l'heure parce que c'est tellement important. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, là, c'est un saut dans le passé. Donc, nous avions l'Orchestre de la Suisse romande, c'est Ernest Ansermet qui l'a fondé en 1918. Et j'ai pensé à lui et j'ai pensé à Ernest Ansermet, déjà avec un certain âge, en 1958, avec un tout jeune violoniste, Christian Ferras. Il avait 25 ans, la plénitude de sa carrière. Et il a joué l'œuvre la plus dure du répertoire pour violon, le concerto pour violon en ré majeur, opus 77 de Brahms. C'est vraiment, Hans von Below disait que c'était pas le concerto pour violon, mais le concerto contre le violon. C'est un vrai morceau de bravoure, c'est magnifique et c'est joué par un magnifique interprète et conduit par un des plus grands chefs d'orchestre.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Florence Notaire, présidente de l'Orchestre de la Suisse romande. Florence, tu es en train de nous expliquer les nombreuses initiatives qui sont prises ici à Genève et que tu patronnes de façon à attirer vers la musique, bien sûr les jeunes, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les gens que je qualifierais de jeunes adultes, dont on sait qu'ils sont très occupés, très suroccupés, leur métier, leurs enfants, leur famille, ils n'ont pas le temps et pourtant tu les attrapes d'une certaine façon.
Et oui, alors je les attrape de cette façon et ça me fait plaisir. Au dernier concert des Amis du 5 novembre, il y avait à peu près, en après-concert, j'ai eu à peu près 150 à 200 jeunes actifs, ce que j'appelle
oui,
les jeunes actifs.
Jeunes actifs, c'est ça.
Et c'était merveilleux et il y avait une dizaine de musiciens de l'orchestre avec eux et je les ai vus passer une magnifique soirée et c'était extraordinaire. D'abord, ils ont apprécié le concert et après, ils ont continué. Et pour eux, ils m'ont dit, c'est extraordinaire de voir des musiciens qui ont d'autres vies que nous, parce que ce sont des vies qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, de partager des choses. Et puis, ils organisent des rendez-vous, ils se revoient pour des cafés, pour grignoter un morceau ensemble. Et c'est une façon pour eux de participer à la vie de l'orchestre, même s'ils n'ont pas autant de disponibilité qu'une personne plus âgée. Ça les implique et c'est notre public.
Alors, c'est très important de désacraliser la musique, parce que tu sais que c'est impressionnant pour des gens qui n'ont pas été élevés dans la musique. J'en fais partie. La musique, ça paraît une sorte de talent un peu donné par les dieux, développé par des gens qui sont quand même très loin de notre vie habituelle. Et puis donc, il y a une certaine timidité, si tu veux, à approcher ce monde. Pendant très longtemps, c'était assez, comment dirais-je, c'était assez élitiste. Il fallait s'habiller, il fallait prendre des places longtemps à l'avance. Donc, heureusement que toutes vos initiatives ont désacralisé cette musique qui aurait été trop lointaine. Mais quand même, il reste que les gens qui la pratiquent, pour nous, ce sont un peu des demi-dieux.
Oui, ce sont des personnes, je crois que pour le public, les musiciens, c'est un personnage un peu étrange qui vit dans ses rêves. Alors pas du tout, les musiciens ne vivent pas dans leurs rêves. La plupart sont de très grands mathématiciens parce que pour jouer un instrument de musique, il faut être très calé en mathématiques.
Comment ça se fait ça?
Alors, je sais pas, mais la plupart des musiciens de notre orchestre, de tous les orchestres, sont très forts dans toutes les matières scientifiques. Je crois que c'est une question de rythme, de mesure, de calcul. Et on voit qu'il y a un grand parallèle entre les professions scientifiques et les musiciens et la musique.
Ça, c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui et je suis sûre que nos auditeurs le découvrent en même temps que nous.
Et beaucoup, d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui sont musiciens, il y a beaucoup de scientifiques. Fabiola Gianotti, qui vient d'être nommée à la tête du CERN, est une grande pianiste. Elle joue magnifiquement bien au piano, elle vient souvent au concert. Et donc, ça va très souvent de pair. Les carrières scientifiques et les carrières musicales vont souvent de pair. Et souvent, parmi nos musiciens, nous avons des musiciens qui ont hésité entre les deux carrières. Donc, ce ne sont pas du tout de doux rêveurs. Ce sont des gens qui ont une sensibilité musicale, qui ont une sensibilité artistique, mais qui sont aussi tout à fait dans la vie de tous les jours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque un petit peu au spectateur qui vient là et qui se dit, c'est qui ce monde des personnes un petit peu sur le nuage? Pas du tout.
Je pense que ce qui nous impressionne beaucoup cette pensée que quelqu'un est capable de passer plusieurs heures devant un instrument ou avec un instrument ou à se battre avec son instrument. C'est ça qui en réalité en fait des demi-dieux, ça fait des gens tellement différents de nous. Nous sommes quelquefois impatients simplement d'être devant un ordinateur. Alors être devant un violon, être devant un violoncelle, devant un piano ou même une flûte, c'est quand même quelque chose à part.
Alors il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup de persévérance. Ces musiciens travaillent d'une façon absolument incroyable. Ils travaillent toute la journée. Et l'enfance d'un futur musicien, c'est une enfance qui est dure parce que ils ont leurs études d'un côté et ils travaillent des heures leur instrument. Parce qu'il faut dire que quand on met au concours un poste chez nous de musicien, il y a des centaines de concurrents. Donc la place est dure. C'est un métier très
concurrentiel. Ce sont quand même les parents qui décident de ça. C'est un peu au fond comme lorsqu'on fait des jeunes sportifs, on sait que ce sont les parents qui les drivent en quelque sorte pour en faire quelque part des prodiges. Il y a un côté un peu vol d'enfance, non?
Alors moi, je n'aime pas du tout ce côté vol d'enfance et je me bats contre ça. Je n'aime pas les enfants prodigues. Je n'aime pas ça du tout. Et quand on nous propose de faire jouer tel ou tel enfant de 5, 6, 8 ou 10 ans, ça me déplaît parce que je trouve que ce ne sont pas des singes savants et qu'on ne devrait pas le faire. En revanche, il y a des parents qui sont très à l'écoute de leurs enfants et il y a beaucoup de musiciens qui sont issus de milieux mélomanes, mais beaucoup ne le sont pas. Ils ont découvert au hasard un instrument.
Les enfants,
et ils jouent après. Donc il ne faut pas du tout imaginer que tous nos musiciens viennent de milieux qui sont très mélomanes. Certains oui, mais d'autres pas du tout.
Ça, c'est une notion intéressante parce que ça enlève ce côté justement de côté forcé un petit peu. Parce que si on a des parents mélomanes, des parents qui adorent la musique, ça paraît évident qu'on vous assied devant un piano. Et là, ben mon Dieu, on finit par jouer du piano.
Oui, puis vous avez des dynasties. Il y a des dynasties. Des dynasties comme Némeyerville, des dynasties de chefs d'orchestre ou des dynasties de violonistes ou de pianistes. Là, on vient d'entendre au violon Serge Khatchatryan. Ses parents sont pianistes, sa sœur est pianiste. Mais il a mené sa vie normalement en tant que violoniste. Et il a choisi le violon parce qu'il avait envie de choisir le violon.
Est-ce qu'on arrive, quand on est un grand musicien, à épouser quelqu'un qui ne soit pas du même monde, qui ne soit pas aussi un grand musicien?
Alors, je ne sais pas, mais je pense que c'est assez sain, finalement, de vivre dans un autre monde à sa vie de tous les jours, parce que on vit très bien tous, les musiciens vivent très bien tous entre eux, mais il y a aussi d'autres choses à côté. Et je dois dire que les musiciens sont très curieux. Quand on part en tournée, on les retrouve dans des musées, s'intéressent beaucoup à la vie des pays qu'on visite. Ils vivent pas dans leur bulle. Vraiment
pas. Florence, tu nous les décris, ces musiciens, comme des personnages très complets.
Oui.
Ce que nous ne savons pas, ce que nous ignorons.
Très curieux, très complet, très intéressé par plein de choses. Et ça, c'est quand même très important. Et aussi, sachez-le, quand vous êtes dans une salle, ils vous regardent tous. C'est-à-dire qu'ils voient très bien ce qui se passe dans la salle. Et c'est très intéressant pour eux de connaître leur public, de connaître les gens qui sont ici, parce qu'ils les repèrent. Et pour eux, ce sont des repères dans une salle. Quand on part en tournée et qu'on les voit, ils nous repèrent, ils savent où on est, ils voient nos réactions. Si on dort dans une salle, les musiciens s'en rendent compte. Donc il ne faut pas fermer les yeux ou regarder son iPhone.
On va tâcher de ne pas dormir. Qu'est-ce que tu nous fais écouter maintenant?
Alors là, c'est un jeune talent, une voix, Joseph Kalecha, qui en 2011 a enregistré, c'est un ténor, avec l'Orchestre de la Suisse romande, un de ses premiers CD. Et c'est un air de Mephistophélès, de Boito, Dai Campi, Dai Prati. C'est pour montrer que à l'Orchestre de la Suisse romande, on est capable aussi d'enregistrer avec des jeunes talents au début de leur carrière. Et c'est quelqu'un qui, depuis 2011, a fait une carrière fulgurante. Il est revenu chanter avec l'orchestre. Il chante à Covent Garden, il chante partout. Et ce disque a été classé premier prix de disque classique aux États-Unis et deuxième en Angleterre.
Alors on a de la chance.
Merci.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2, dans la bouteille à moitié pleine, avec Florence Notaire, présidente de l'Orchestre de la Suisse romande, qui nous fait découvrir la vie des musiciens, la façon d'évoluer des musiciens. Et je dois dire que pour les gens qui ne sont pas mélomanes, c'est une vraie découverte que tu nous fais faire aujourd'hui. Tu nous as dit qu'ils étaient mathématiciens pour la plupart, ou du moins scientifiques. Tu nous as dit aussi que souvent ils étaient mariés à des gens qui n'étaient pas du tout dans la musique, et qu'au fond c'était des personnages très complets.
Non seulement ce sont des personnages très complets, mais à leur contact, j'ai appris énormément. Moi, qui n'étais pas une grande fan de musique contemporaine, j'ai découvert la musique contemporaine, j'ai appris à l'apprécier et j'ai appris à étudier et écouter chaque morceau de façon différente. Et c'est, pour moi, c'est un enrichissement de tous les jours que d'être à côté d'eux et de les voir.
Florence, je sais qu'on apprend à regarder la peinture, on apprend aussi à écouter la musique.
Absolument. On apprend à écouter la musique et on apprend aussi à apprécier ce qu'on appréciait moins auparavant. C'est-à-dire que je pense que pour découvrir un certain type de musique, il faut l'avoir écouté plusieurs fois. La musique contemporaine n'est pas facile pour tout un chacun. Et moi, je commence à l'apprécier beaucoup, alors qu'il y a quelques années, je me disais, mais quel cauchemar, je vais passer un quart d'heure à écouter de la musique contemporaine, ça va être terrible. Maintenant, je l'apprécie et je l'attends.
Quand l'as-tu découverte, alors, la musique contemporaine?
Il y a 5-6 ans, petit à petit. C'était une découverte pas à pas et je l'apprécie de plus en plus. Alors il y a certaines musiques auxquelles je ne me fais pas. J'ai appris à la comparer ce type de musique et à voir quelle c'était celle qui avait de la qualité et d'autres un tout petit peu moins.
Je crois qu'il est dans tes projets d'amener ton public à la musique contemporaine, de l'éduquer au fond.
Alors on nous presque maintenant pour un concert sur deux ou un concert sur trois, nous avons un petit morceau de musique contemporaine.
Au fond, tu fais ça par dose homéopathique, là, pour habituer ton public. Et puis, ils vont s'y faire, c'est ça? C'est
alors,
ça l'idée?
C'est aussi notre mission, parce que quand Beethoven jouait, c'était de la musique contemporaine. Quand Mozart jouait, c'est de la musique contemporaine. Maintenant, c'est de la musique classique. Donc, il faut penser à ce que sera la musique dans 100 ou 150 ou 200 ans et se dire, il faut qu'on fasse la musique de demain. Et alors, on va pas... Tout le monde n'est pas prêt à absorber ou à écouter de la musique contemporaine. Donc, c'est pour ça que nous... Par petite dose, nous apportons, on a eu un magnifique concerto du Sapin il y a quelque temps. Il y a 8 jours, on a eu un morceau de musique contemporaine japonaise qui était assez extraordinaire. Nous avons eu du Bunion. Donc on a beaucoup, beaucoup de musique contemporaine et on est aidé par Pro Helvetia pour commander des morceaux de musique contemporaine à des compositeurs suisses.
Alors, différemment, tu fais venir des créateurs contemporains. Comment les choisis-tu?
Alors, il y a une commission artistique à l'orchestre et... Tant les compositeurs que les chefs d'orchestre que les solistes sont choisis par la commission artistique. Nous nous réunissons, je crois, la semaine prochaine. On se réunit tous les 3-4 mois et nous faisons le programme à la fois au point de vue interprète, composition, chef d'orchestre pour les prochaines années.
Et Florence, vous les écoutez sur CD ou est-ce que vous les faites venir et vous les faites jouer devant vous pour comprendre un peu mieux leur musique et
alors,
ce qu'ils veulent dire?
Pour les musiques contemporaines, je dois dire qu'on a beaucoup de spécialistes de musique contemporaine parmi nous, qu'on voyage tous beaucoup, qu'on va tous les écouter un peu partout. Donc on revient avec des idées. Chacun des membres de la commission artistique revient avec ses idées. Et on en parle, on regarde un petit peu ce qui s'est dit dans les critiques, on en parle avec la radio-télévision suisse romande qui est un de nos partenaires, on discute de tout et puis finalement on arrive à un consensus sur 1 ou 2 compositeurs ou 3 ou 4 compositeurs.
Quels sont les pays dans lesquels la création de musique contemporaine est la plus foisonnante, la plus active, la plus forte?
Je crois qu'un peu partout, il y a des très bons compositeurs français, il y a d'excellents compositeurs suisses, il y a des bons compositeurs japonais, des très bons compositeurs aux États-Unis. On a eu il n'y a pas très longtemps un morceau d'orgue contemporain. Donc c'est aussi des choses tout à fait étonnantes parce qu'on peut avec un orgue qui est par essence l'instrument de musique classique, musique d'église, faire de la musique contemporaine. Donc il faut essayer de faire découvrir et le soliste est Cameron Carpenter. On le croiserait dans la rue, on dirait un vrai punk, mais c'est une grande grande star aux États-Unis. Donc il a la crête de l'Iroquois, il a les chaussures à talons, etc. C'est assez extraordinaire. Il a ses tatouages et c'est un très très grand organiste.
Je dois dire que tu nous fais découvrir un monde que la plupart de nos auditeurs ignorent, à moins qu'ils soient vraiment mélomanes et qu'ils soient vraiment ton auditorat, tes auditeurs et tes habitués. Pour le reste de la planète, tu sais que c'est quand même très étrange, très lointain. Et je ne sais pas comment on fait pour entrer en musique. J'aimerais que tu le dises à des auditeurs qui peut-être, comme moi, sont un peu loin de la musique. Comment entre-t-on en musique ?
Alors, pour entrer en musique, il faut venir. Il faut d'abord venir à un concert, assister à un concert. Il y a une vraie magie, il y a une vraie communion entre l'orchestre et le public. Écouter un CD, aller sur YouTube et écouter un morceau de musique classique, oui. Mais il faut être là, il faut sentir la salle vibrer, il faut voir l'émotion qui passe et partager les émotions avec les musiciens. Et je crois que c'est le début. Et il faut pas avoir peur de pousser la porte de Victoria Hall ou de toutes les salles de concert. Il y a souvent des programmes pour les personnes qui apprécient moins la musique. Nous faisons des ciné-concerts avec des œuvres de Charlie Chaplin. Donc on projette par exemple des films de Charles Chaplin avec l'orchestre qui joue devant le film. Donc ça, c'est pour tout public. L'année prochaine, nous prévoyons une grande surprise avec un grand film de la génération 15-25 ans de nos jours, mais on va jouer la musique avec le film qui sera projeté. il faut venir, il faut passer un moment, il faut se dire, je pousse la porte de Victoria Hall, c'est pour moi, je rentre. Et je passe. Et puis il faut dire aussi, par exemple, Serge Gainsbourg, quand il écrit certaines de ses chansons, s'est inspiré des symphonies de Brahms. Beaucoup, Stanley Kubrick dans ses films, a repris des symphonies de compositeurs classiques. Quand vous écoutez une chanson actuelle, quand vous allez au cinéma, quand vous écoutez le générique d'un film, pensez souvent que les compositeurs ou les chansons ou de musique de film actuelle se sont inspirés de musique classique.
Je crois que c'est ce que tu appelles la globalisation de la musique de nos jours.
Exact. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors, justement, on va sur ce sujet par hasard. Alors, je t'ai apporté un disque de Korngold. Alors, Korngold, peu de gens le connaissent. Ça s'appelle Strauss-Mania et ça date de 1953. Korngold, c'est un compositeur autrichien naturalisé américain qui a été un grand compositeur de musique de film. Il a travaillé avec Max Reinhardt. Il a été le compositeur de Songe de nuit d'été, de la musique de film, et surtout de Robin des Bois, le fameux film de 1938 avec Olivia de Havilland et Errol Flynn. Et à côté de ça, c'était un grand compositeur de musique classique. En 1947, il a décidé de retourner à la musique classique. Et là, il s'est inspiré de Strauss. Il adorait Strauss. Et il a joué du Strauss avec, dans l'esprit romantique, mais avec le rythme et l'harmonie de la modernité. Donc voilà, je pensais que ça pourrait être intéressant.
Radio Cité Genève, Viviane de Witte,
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 avec Florence Notaire, présidente de l'Orchestre de la Suisse romande, qui nous fait découvrir beaucoup de choses à propos de la musique, bien sûr, à propos de l'orchestre, bien sûr, et puis qui a vécu un petit épisode pas banal à propos d'un piano. Raconte-nous ça.
Alors écoute, nous avions un piano extraordinaire. Ça faisait 15 ans que c'était notre piano, le piano de l'orchestre, et le piano du Victoria Hall. On le prêtait, on le louait à tous les grands concertistes qui passaient. Au bout de 15 ans, on a voulu lui donner une nouvelle vie. On a un de nos mécènes, la Fondation Francis et Marie-France Minkoff, nous a offert un nouveau piano. Il faut dire qu'après 15 ans, un piano tel que le nôtre, qui a beaucoup servi, n'est plus tout à fait fait pour une salle de 1600 places et pour un orchestre de 112 musiciens.
Est-ce que ça s'use, un piano ?
Non, mais ça s'essouffle. Ça se fait.
Ça s'essouffle.
Ça s'essouffle. C'est-à-dire qu'il sera parfait pour une salle de 1000 personnes, mais peut-être moins pour une salle de 1500 personnes. C'est comme un piano quand il arrive dans une salle de concert, notre piano actuel, le nouveau, celui que nous avons maintenant depuis
quelques
jours.
Celui qui vient de Hambourg, je crois.
Celui qui vient de Hambourg. Eh bien, il va mettre 2-3 ans à se faire. Il va se moduler, il va se faire. Il est un peu vert, il est un peu jeune maintenant, mais il va se faire. Donc, il faut savoir que ces pianos ont une vie. Et la vie de ce piano, donc maintenant on a un ancien piano qui a 15 ans, qui a été signé par tous les plus grands pianistes qui sont passés par Genève. Donc il fait partie de l'histoire musicale de Genève, et c'est un Steinway D, très grande qualité, magnifiquement entretenu par Pierre Furer, qui est l'accordeur de piano de Genève, qui est celui qui a toujours entretenu les instruments pour l'orchestre de la Suisse romande, et on s'est demandé ce qu'on allait en faire. Il méritait une très belle vie, et on voulait le vendre aux enchères, parce qu'on voulait le vendre, on voulait créer un fonds des instruments. Il faut savoir que nos musiciens ont besoin d'instruments.
Je crois qu'ils s'endettent quelquefois toute une vie pour acquérir leur instrument.
Exactement. Ils s'endettent. Les instruments de musique coûtent très très cher. Si tu veux un bon violon, c'est plus d'1 million de francs.
Ah oui.
Un beau violoncelle, c'est plus de 600 à 800 000 francs. Une paire de timbales, c'est plus de 50 000 francs.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Une contrebasse, c'est 45 000 francs. Donc il faut savoir, même une flûte en bois, une belle flûte en bois, c'est 15 000 francs. Ça coûte très très cher. Et on s'est dit qu'il fallait, nous n'avons pas de budget pour acheter des instruments, et on aimerait bien offrir de très beaux instruments à nos musiciens, ça contribue à la qualité de l'orchestre. Et on a créé avec mon directeur général, avec Heng Swinen, un fonds des instruments qui permet à des mécènes d'acheter des instruments pour des musiciens. Et c'est aussi un petit clin d'œil aux musiciens, ils savent que leur instrument a été offert par un mécène. C'est une preuve d'attachement à l'orchestre.
C'est vrai.
Et à chaque fois, par exemple, la harpe a été offerte par Stéphanie Labrouche, et à chaque fois qu'on jouera de la harpe, on pensera à Stéphanie, on marquera sur le programme.
Alors ton piano.
Alors mon piano, on a une vente aux enchères qui a magnifiquement démarré, qui a été organisée par Christie's, qui l'a fait bénévolement, et il est parti pour 70 000 francs, 70 000 francs au Conservatoire de Genève. Et ça, c'est génial.
Il a fait 300 mètres, hein, je crois.
Il a fait 300 mètres. C'est absolument fabuleux. Et moi, c'était mon rêve qu'il parte, qu'il reste à Genève et qu'il parte pour une institution de la place et que des jeunes pianistes puissent jouer, effleurer les touches d'un piano que tant de grands pianistes ont joué.
Alors, et je crois fabuleux. Que la directrice de l'institution, Madame Aruntignan,
Eva Aruntignan.
Voilà. Elle a dit « Placer ses doigts là où tant de génies ont joué, voilà qui va donner des ailes aux jeunes musiciens. » C'est joli.
Tout à fait raison, Eva. Pour nous, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'elle ait pu nous faire en l'achetant. Elle nous a fait un très beau cadeau en l'achetant. Nous, on lui a fait un beau cadeau parce que c'était un beau piano. En le vendant. Et pour nous, c'est fabuleux qu'il reste là. Je pense que pour l'histoire de la musique à Genève, et en plus, c'est un témoin musical de Genève.
J'ai vu qu'il avait été parmi les nombreuses signatures très prestigieuses, mais il y en a une qui est un peu chère à mon cœur parce que j'aime bien les loups, c'est celui d'Hélène Grimaud.
Absolument. Alors, il y a Hélène Grimaud qui a joué à plusieurs reprises dessus. Il y a Martha Argerich, il y a Denis Matsuev. On l'appelle l'ours de Sibérie, c'est une très très grande force musicale. Il a joué il n'y a pas très longtemps, j'avais peur qu'il me le détruise, mais il ne l'a pas détruit, le piano a résisté. Donc tous, Evgeny Kissin, tout le monde a joué sur ce piano et beaucoup en ont gardé de très bons souvenirs. Et du reste, plein de musiciens nous ont écrit des témoignages au moment de la vente, dans le dossier de vente, pour dire combien ils ont apprécié de jouer sur ce piano, combien il avait de belles couleurs.
Alors tu vois, tu nous fais découvrir aussi combien les instruments sont vivants.
Alors, un instrument vit. Il faut savoir aussi que dans le piano, ce qui est le plus important, c'est le bois. Un piano, c'est pas tellement le mécanisme, c'est le bois qui est à l'extérieur. Et le bois est façonné à la main. Il n'y a rien de mécanique, il n'y a rien d'automatique. Et c'est des bois qui ont vieilli pendant 10-15 ans. Il y a à peu près 17 essences de bois différentes dans un piano. Ils ont été choisis par Steinway dans tous les pays du monde. Ils ont été vieillis dans leur hangar. Ils ont été après travaillés, mouillés, travaillés à la main. Et quand on est allé à Hambourg choisir ce piano avec les Minkoff...
Alors pourquoi Hambourg?
Parce que c'est le siège de Steinway.
Ah voilà.
Et il y a très peu de pianos Steinway dès qu'ils sortent par an. Et on en avait vu 6. Et crois-moi, chacun, c'était 6 pianos identiques quand on les voit visuellement. Chacun avait un son différent. Et même les néophytes pouvaient le voir. Donc c'était, et on a choisi notre piano pour notre salle.
Un grand moment, ça, dans ta
c'était
vie, Florence.
Extraordinaire. C'était une découverte fabuleuse. Parce que je me suis dit, jamais je serais capable de choisir un piano. Et j'étais avec nos mécènes qui ont dit, comment va-t-on faire? On était avec des professionnels. On était avec un pianiste, Francesco Piemontesi, qui était un grand pianiste, avec Pierre Furer, avec notre directeur général. Et on s'est tous mis d'accord sur le même piano.
Ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Est-ce que c'est du piano?
On écoute du piano. Voilà. Alors, on écoute le concerto pour piano et orchestre de Beethoven, qui a été enregistré avec Christian Zacharias au piano et Armin Jordan. Armin Jordan, qui était un tout grand chef, qui a marqué la Suisse romande. C'était notre chef d'orchestre de 1985 à 1997. C'est une personnalité hors du commun. Puis en 1997, il a décidé qu'il ne serait plus que chef invité. Mais c'est un personnage tout à fait qui fait chaud au cœur de tous les musiciens. Tout le monde se souvient de lui. Et moi, je me souviens d'avoir vu, il est mort en 2006, et je me souviens d'avoir vu la dernière fois dans le magnifique Tristan et Isolde, qui était au Grand Théâtre et qu'il a dirigé en 2005. Et c'est un magnifique moment. On va écouter l'Allegro, que c'est un formidable dialogue entre le piano et l'orchestre.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Florence Notaire, présidente de l'Orchestre de la Suisse romande. Florence, merci de nous avoir fait écouter un enregistrement hors commerce. Bien évidemment, c'est très rare. Et comment est-ce que tu te l'es procuré?
Alors, c'est un enregistrement d'un concert de 1994, du 9 et 14 novembre 1994, un concert des Amis de l'Orchestre de la Suisse romande, qui a été enregistré à la fois par les Amis de l'Orchestre de la Suisse romande et notre sponsor Vacheron Constantin, et qui a été offert aux mécènes des Amis et aux grands clients de Vacheron. Donc, c'est un recueil inédit.
Alors, on a beaucoup de chance de l'avoir écouté grâce à toi aujourd'hui. Alors maintenant, je voudrais te poser une question. Je sais que l'Orchestre de la Suisse romande bouge beaucoup. Il bouge où?
Alors, on bouge dans le monde entier. Alors, on bouge en Suisse, un petit peu partout. Nous sommes l'Orchestre de la Suisse romande. Nous avons 8 concerts à Lausanne. Nous avons une tournée jeune en Romandie qui prend à peu près 4 semaines. Nous allons l'année prochaine jouer à Montreux, à Sion, à Rolle, à Martigny. On joue à Zurich, mais nous voyageons aussi beaucoup dans le monde entier. Nous rentrons d'une tournée triomphale de 3 semaines et demie en Corée et au Japon. qui est absolument extraordinaire.
Est-ce que tu l'as accompagnée?
Alors malheureusement, pour des raisons familiales, j'ai pas pu l'accompagner, mais j'accompagne toujours les tournées. Nous avons une tournée le printemps dernier en Scandinavie et en Allemagne. Là, je l'ai accompagnée. Nous partons en février aux États-Unis, côte est, côte ouest. Après, nous faisons les festivals d'Europe, puis nous partons en Chine.
Mais alors, est-ce que les jeunes voix ne sont pas un peu orphelins de leur orchestre pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe?
Alors non, ils sont pas orphelins parce que d'abord, nous partons très souvent pendant les vacances.
D'accord.
Et donc, il y a moins de monde à Genève. Et finalement, nous avons une saison qui nous permet de partir grosso modo 6 semaines par an en tournée.
Alors, je crois que même à Genève, quelquefois, vous jouez dans des endroits un peu inattendus, par exemple au CERN.
Alors, on a joué au CERN l'année dernière. C'était un projet, c'était pour les 50 ans du CERN. C'est un projet assez fou parce qu'on a joué avec un groupe de pop-rock. Donc, je dois avouer que je ne me souviens plus du nom. Tout le monde le connaissait sauf moi. Et la première partie, il y avait tous ces personnages extraordinaires avec des longues barbes et puis des Harley Davidson, etc.
Est-ce que c'était pas Alan Parsons?
C'était Alan Parsons, voilà. Donc, je suis désolée, mais j'ai un blanc là-dessus. Et c'était assez fabuleux. J'ai découvert que je connaissais leurs airs tout en connaissant pas leur nom. Et après, la deuxième partie, il y avait l'Hymne à la joie de Beethoven qui a été joué par l'orchestre et chanté par un chœur de fonctionnaires internationaux et d'ambassadeurs mêlés à des professionnels. Et c'était un moment inoubliable. Il y avait 30 000 personnes dehors, comme un vrai concert de pop-rock. Moi, j'ai dû monter sur le stand de l'orchestre parce que je suis tellement petite que je voyais rien du tout. Donc finalement, j'ai grimpé, je me suis mise debout sur le stand, ce qui a beaucoup fait rire tout le staff de l'orchestre. Mais voilà, c'était comme ça.
Mais Florence, comment est-ce que tous ces fonctionnaires internationaux peuvent s'entraîner et devenir aussi bons que des professionnels?
Alors, je pense que c'est un dérivatif pour eux. Je pense que c'est une passion. Et on a beaucoup travaillé avec eux. C'était très intéressant pour nous de travailler avec eux.
Il y a eu beaucoup de répétitions.
Il y a eu pas mal de répétitions.
Oui, quand même, parce que c'est difficile quand même de jouer avec des professionnels ou de chanter avec des professionnels. C'est incroyable.
C'était difficile pour eux, difficile pour tout le monde, mais c'était un merveilleux moment de partage. Et puis, c'était pour nous un partage et de transmission de connaissances.
Je dois dire que c'est étonnant. Tout ce que tu nous dis aujourd'hui est très étonnant parce que si tu veux, quand on n'est pas plongé dans la musique soi-même, et comme je te le disais tout à l'heure, on a cette révérence pour ce monde qui est tellement admirable, qui est tellement exigeant. Forcément, on découvre quantité de choses quand on a la chance de croiser quelqu'un comme toi. Et aujourd'hui, au micro de Radio Cité Genève, je dois dire que je suis sûre que nos auditeurs sont très contents.
Ben, je suis ravie, j'espère que je l'aurai montrer où j'aurais appris, appris certainement pas, mais montrer que la musique, c'est pour tout le monde. La musique est un vecteur de partage, d'émotions. Aussi, on n'a pas besoin de parler la même langue. Il faut savoir, pour écouter la musique, on n'a pas besoin d'interprète, pas besoin de traducteur.
C'est vrai.
La musique est universelle et tout le monde est à même de la comprendre. Et c'est un merveilleux moment d'amitié, moment de partage.
C'est vrai, mais je dois dire qu'au cours de cette émission, tu nous as fait découvrir que les instruments, au fond, avaient une personnalité, que les musiciens étaient des gens beaucoup plus complets qu'on ne l'imaginait. Moi, je les imaginais 7 heures ou 9 heures par jour devant leur piano ou avec leur instrument.
Ça, c'est vrai aussi.
Ça, c'est vrai aussi. Voilà. Mais c'est extraordinaire de penser que pendant ce temps-là, ils sont peut-être des scientifiques importants. Ou tu parlais tout à l'heure de la future présidente du CERN qui va prendre ses fonctions, je crois, l'année prochaine.
L'année prochaine, et elle, donc, je l'ai entendue dans plusieurs conférences scientifiques, mais je sais pour la connaître que c'est une très grande pianiste, que c'est une belle pianiste amateur, mais elle adore le piano. Elle joue, je crois, tous les jours au piano une heure. Donc,
faut savoir. Oui, c'est déjà sérieux.
C'est déjà sérieux. Donc, peut-être un peu moins, mais en tout cas, elle joue beaucoup au piano. Et puis, il faut savoir que nos musiciens ont des intérêts dans les arts, dans la littérature.
On a l'impression que ce sont, comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu des demi-dieux et un peu inaccessibles. Alors, je crois que de les rendre aussi accessibles que tu as fait pendant cette émission, c'est très intéressant, c'est très fort. Et ça donne envie. Ça donne envie aussi de rejoindre ce monde un peu mystérieux peut-être, mais que tu rends tellement proche.
Écoute, merci. Merci à toi de m'avoir conviée. Et il faut dire que les musiciens sont aussi très drôles, ce que j'ai oublié de dire. Ils ont un sens de l'humour tout à fait percutant et amusant. Et ce sont vraiment des personnages à découvrir. Et je suis sûre que quand on vient les écouter, il faut aussi les observer entre eux pendant le concert. C'est très intéressant de voir ça.
C'était Florence Notaire, la présidente de l'Orchestre de la Suisse romande. Florence, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue nous parler avec ton cœur comme tu l'as fait, ton enthousiasme. Je dois dire que tu es un personnage assez extraordinaire parce que mélomane, certes, mais de là à avoir cette fonction à la tête de l'Orchestre de Suisse romande, c'est immense. Tu le fais avec énormément de charme, énormément de compétences, avec un immense sourire. Je crois que nos auditeurs ont rencontré à travers cette émission une présidente heureuse.
Merci, merci à toi de m'avoir conviée. Et je dois dire une chose, je ne suis qu'un tout petit engrenage dans l'orchestre de la Suisse romande. L'orchestre de la Suisse romande, ce sont les musiciens. Et moi, je suis là pour les aider.
Et en merci plus, tu es modeste. Merci beaucoup à toi, Florence. Merci. Et puis, merci aussi à Jackie Elzesser et Alexandre Jean-Renaud qui nous aident à monter cette émission. À bientôt.
À bientôt, Viane. Merci beaucoup.